Et je voudrais vous parler d'un texte qui est dans Luc au chapitre 4. Ce texte, vous le connaissez, puisque c'est une des premières apparitions publiques de Jésus, lorsqu'il prend la parole dans la synagogue de Nazareth. Donc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula, trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Amen. Voilà, Jésus commence donc son ministère public dans cette synagogue de Nazareth et il va lire donc ce texte du prophète Ésaïe, Ésaïe 61, les trois premiers versets. Mais cette prophétie d'Ésaïe fait référence à un autre texte qui est encore plus ancien que l'on trouve dans le livre du Lévitique. Lévitique au chapitre 25, il est question du jubilé. Il est question du jubilé. Quel est donc ce rapport entre le ministère de Jésus et le jubilé ? Je vais revenir sur ces textes et expliquer de quoi il s'agit chaque fois. Et ce que je voudrais développer aussi, c'est quelles conséquences ça a pour nous, pour l'évangélisation. Alors, si vous prenez Ésaïe 61, vous allez retrouver exactement ces paroles. Ésaïe, donc, prophétise 600 ans approximativement avant Jésus-Christ, et il va annoncer quelque chose de grave, quelque chose de terrible, c'est la déportation d'Israël de Jérusalem. Il annonce à ce peuple, il annonce que, ben voilà, le temple, tout ça, ça va être terminé, vous allez partir en déportation parce qu'il y a un temps de courroux, un temps de procès entre Dieu et son peuple. Mais il ne veut pas rester sur... il ne veut pas. Le plan de Dieu, c'est de ne pas rester sur cette note-là. Le plan de Dieu, c'est de restaurer Israël. Et à partir des chapitres 40, dans la deuxième partie du texte d'Ésaïe, eh bien, c'est un temps de restauration qui est annoncé, et ce temps de restauration va prendre la forme d'un nouveau jubilé, c'est-à-dire d'une année de grâce, d'un moment particulier dans la vie d'Israël où Dieu va rétablir son peuple, dans son héritage, dans ses terres, va permettre à ce peuple donc de reprendre une vie, de reconstruire le temple, etc., etc. Une année de grâce. Si l'on veut comprendre le rythme de la vie du peuple d'Israël, il faut comprendre cette notion de sabbat, d'année sabbatique et de jubilé. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, vous allez trouver la description de ces temps avec toutes les lois qui se rattachent à ces années particulières. Vous connaissez tous le sabbat, un jour par semaine qui est consacré à l'Éternel et qui rappelle en quelque sorte le jour de la création, le jour du repos où Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Ok. Mais la notion de sabbat ne s'arrête pas là. En hébreu, le mot sabbat n'est jamais au singulier, toujours au pluriel. Il n'apparaît jamais À aucun moment, au singulier, c'est pas le sabbat, c'est les sabbats. Parce que les sabbats, c'est un rythme de vie tous les 7 ans. Il y a les 7 jours, ok, un jour de repos, un jour de relâche, et tous les 7 ans, eh bien, une année sabbatique. Une année sabbatique qui arrive. Dans cette année sabbatique, on ne sème pas, on ne plante pas, on vit de la grâce de Dieu. Ça ne s'arrête pas là, on remet les dettes dans l'année sabbatique. Et on délivre les esclaves. Et tous les 7 fois 7 ans, on va proclamer la 50e année, une année de jubilé. Dans cette année de jubilé, on remet les dettes, on libère les esclaves et on rend les terres. C'est-à-dire que la notion de propriété en Israël n'est pas la même que celle que nous avons. Les gens n'achetaient pas de la terre, ils achetaient des récoltes jusqu'à la 50e année. Et ensuite, peut-être qu'une famille était passée par des galères, peut-être qu'il y avait eu la maladie, peut-être qu'il y avait eu deux, trois récoltes qui étaient mauvaises, on était tombé dans la difficulté, peut-être la pauvreté. Vous avez l'histoire de Ruth qui est de cet acabit. Mais, d'une part, il pouvait y avoir un parent proche qui pouvait racheter les dettes, et d'autre part, tous les 50 ans, quoi qu'il arrive, on retrouvait ces terres. C'est une mesure sociale qui structure la société d'Israël, qui structure le royaume d'Israël. Problème, Israël n'a jamais mis en pratique les années sabbatiques. Et quand Dieu va fixer le temps de la déportation, il va leur dire, voilà, pendant les 490 ans que vous êtes restés là en terre d'Israël, vous n'avez pas pratiqué les années sabbatiques, donc je vais vous fixer 70 ans pour rattraper toutes ces années. Pendant 70 ans, vous trouvez ça à la fin du livre des Chroniques, eh bien, la terre d'Israël va se reposer, elle va jouir de ses sabbats. Et au bout de 70 ans, eh bien, on va proclamer un nouveau jubilé. Au bout de 70 ans, Ésaïe annonce une année de grâce de l'Éternel. Le peuple d'Israël revient sur ses terres. C'est un temps de joie, c'est un temps de célébration, hein, c'est un temps de jubilation. C'est dans nos traductions ce qu'on a retenu, hein, mais l'hébreu parle de cet instant où le mot jubilé, en fait, n'a rien à voir avec la jubilation. Le mot jubilé a à voir avec la corne du bélier par lequel on proclamait cette année. Et on proclamait cette année du jubilé au moment de la fête de Yom Kippour. À la fin de la fête, on sonnait de la trompette et on rentrait dans cette année. Donc Ésaïe annonce la restauration comme un jubilé, un nouveau jubilé. Mais les choses ont été difficiles. Ça n'a pas été la joie complète. Si vous prenez le livre de Néhémie, vous apercevez que, vite fait, on a retrouvé de vieilles habitudes, on a fait des esclaves, on a ramené les frères israélites sous l'esclavage, on les a dépouillés de leurs terres par cupidité, par amour du gain. Néhémie, à un moment, il va prendre une grosse colère avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est que Ésaïe annonce quelque chose, mais la réalisation de ce jubilé va porter beaucoup plus loin, va porter vers d'autres réalités, une autre réalité. C'est pour cela que ce jour-là, dans la synagogue de Nazareth, Jésus va prendre ce texte d'Ésaïe et va dire cette parole prononcée il y a déjà 600 ans, aujourd'hui, elle s'accomplit. Aujourd'hui, je suis venu vous annoncer une année de grâce de l'Éternel, une année de jubilé. Il est venu pour proclamer cette année de grâce. Il ouvre son ministère public par la proclamation d'une année de jubilé. Restauration, guérison, délivrance des esclavages, cette parole de l'Écriture est accomplie. C'est aujourd'hui dont il est question dans ce texte, il est bien particulier. Il ne désigne pas simplement le jour où Jésus a proclamé cela dans la synagogue de Jérusalem, mais il désigne chaque jour où Jésus-Christ est proclamé. Nous sommes encore dans cette année de grâce de l'Éternel. Nous sommes encore dans ce jubilé. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est peut-être pour toi le temps de la délivrance. Aujourd'hui, c'est peut-être pourtant pour toi le temps où les chaînes sont brisées, où les dettes sont libérées. Pendant les 3 années de son ministère public, Jésus va témoigner par son action, par le salut proclamé, par le pardon des péchés, par la guérison, par la délivrance, que cette année du jubilé était une réalité comme jamais elle n'a été. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alléluia! Et nous avons été, enfin je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été au bénéfice de cette année de grâce. Mes chaînes ont été brisées, mes liens ont été brisés, comme ceux d'un esclave. Son ministère, c'est l'accomplissement de cette année de grâce. Il renvoie libres les opprimés. Et tout le ministère de Jésus est empreint de cet esprit et de ce langage du jubilé. Sa mort, c'est le grand jour des expiations, c'est notre Yom Kippour. C'est le jour du grand pardon. Jésus meurt pour le péché, victime expiatoire, sacrifié à notre place, rançon donnée pour nous. L'année de grâce est proclamée. L'année de grâce est proclamée. Et tout ce qui va tourner autour du pardon est marqué par cet esprit du jubilé. Quand Pierre vient poser la question à Jésus, combien de fois pardonnerai-je ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit non, pas 7 fois. 49 fois, 7 fois. Ou 70 fois, 7 fois, excusez-moi. 70 fois, 7 fois. Et là, on est encore dans cet esprit du jubilé. On est encore dans ce temps où on remet les dettes, on renvoie les esclaves. On proclame la liberté et chacun rentre dans son héritage. Les dettes sont déliées. Comprenons que ce langage du pardon dans le Nouveau Testament, c'est aussi ce langage du jubilé. Bien sûr, l'accomplissement de ce jubilé nous projette encore plus loin, au jour de son retour, où il viendra, comme il est dit dans le livre des Actes, hein, que le ciel doit, alors Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes, Actes chapitre 3. Le rétablissement de toutes choses. Chacun qui retourne dans son héritage. Il y a je ne sais pas si c'est un économiste, un anthropologue, qui a écrit un livre qui s'appelle « La dette, 5000 ans d'histoire ». Et il reprend l'histoire de la dette dans toute l'Antiquité. Et c'est très intéressant, très très intéressant. Et surtout, à un moment, il dit « Mais aujourd'hui, et il prend ce texte de Lévitique, il dit « Il faudrait que on met en place un jubilé. » C'est pas incroyant, le gars. Hein. C'est juste, un scientifique, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui dit, mais Là, il y a quelque chose qui est d'une intelligence remarquable et qui permet justement à des sociétés, à des pays entiers de revivre. Et il prône le rétablissement de ce jubilé. Il dit que c'est une mesure saine qui empêche l'amalgame de la richesse dans les mains juste de quelques-uns, qui permet au plus grand nombre de vivre. Et il faut qu'il y ait une remise de dette. Et quand on parle du jubilé, on est à cheval sur deux choses. D'un côté, le côté très matériel. En Israël, ce jubilé avait quelque chose de très matériel. L'esclavage, c'était une réalité sociale. Les dettes, et en lisant ce livre, j'ai compris que c'était quelque chose de terrible dans l'Antiquité. Il y a plus, et carrément les trois quarts des esclaves de l'Antiquité sont de l'esclavage pour dette. Ce n'est pas des guerres, des gens qu'on a pris dans les pays conquis. Non, c'est des dettes. Et dans la Bible, vous avez plusieurs exemples de cela. Cette femme qu'Élisée va voir et qui lui dit, voilà, le créancier est venu. Si je ne paye pas ma dette, eh bien je vais être vendu, mes enfants vont être vendus. L'esclavage pour dette, c'est une plaie dans l'Antiquité. L'esclavage pour dette a conduit à la prostitution, y compris la prostitution sacrée. Qu'on ne nous raconte pas des histoires, les gens qui, les femmes et les hommes aussi qui se livraient à la prostitution ne le faisaient pas de gaieté de cœur, ils le faisaient parce qu'ils étaient contraints, parce qu'ils étaient sous le joug de l'esclavage. Alors, voilà la réalité sociale dans laquelle le jubilé vient prendre place. Et il y a aussi cet aspect spirituel qui nous parle du pardon du péché, qui nous parle de la délivrance de nos péchés, qui nous parle de, oui, remettre les dettes, être libéré des esclavages et rentrer dans notre héritage spirituel. Ne vous faites pas des bourses ici-bas où la teigne et le ver viennent ronger, mais faites-vous une bourse dans le ciel, un héritage qui ne peut ni se souiller ni se corrompre et qui vous est réservé, Seigneur. On veut rentrer dans notre héritage. On veut que ton jubilé nous conduise dans cet héritage. Et on veut le saisir pleinement. Alors, la plupart du temps, en bon pentecôtiste, on donne à ce texte un sens univoque. La délivrance du péché, la guérison des maladies, la délivrance de la possession, la délivrance de tous nos esclavages intérieurs et spirituels. Amen, amen. Oui, je dis amen, il faut le voir comme cela. Parce que c'est une réalité, parce que c'est le message que Jésus est venu délivrer. Mais quand on a dit ça, on n'a pas épuisé tout le sens de ce jubilé. Et ce n'est pas toute sa signification. Et on a tort de limiter l'interprétation simplement au spirituel. Amen, Jésus est venu nous libérer de nos péchés. Amen, Jésus est venu guérir les malades. Amen, Jésus est venu délivrer les possédés. Amen, Jésus est venu pour que toutes les chaînes de la drogue, de l'addiction, de l'alcool tombent. Amen. Mais je crois aussi que cet esprit du jubilé doit s'appliquer dans nos sociétés. Je crois aussi que l'Église a un rôle à jouer. Elle doit montrer la voie. Elle doit dire à ce monde, voilà de quel esprit nous sommes animés. Voilà ce qu'a dit Jésus dans la synagogue de Nazareth. Et voilà ce que nous sommes amenés à proclamer dans ce monde. Il y a quelques années, je suis allé à Bristol. Je suis allé rencontrer une association qui œuvre là-bas dans un quartier vraiment terrible. Et ce que je n'avais pas réalisé, ce que je ne savais pas, c'est que Bristol, c'est la ville de George Müller. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de George Müller. Hein, c'est un gars qui a vécu il y a environ 150 ans, déjà, oui, qui a récupéré tout un tas de gamins orphelins. Voilà, Bristol, c'est une ville portuaire, c'est une ville d'industrie. C'est une ville où la révolution industrielle a pris place avec son lot de misère, de pauvreté, de misère sociale et des tas de gamins laissés à l'abandon, des parents morts, des gamins dans les rues. Alors il a commencé à récupérer ces gamins. Et on connaît George Miller parce que c'était un homme de foi, un homme de prière, un homme qui se tenait devant Dieu pour tous les besoins de ces gamins. Le gars a marqué son époque. Il a eu des milliers de gamins. Mais surtout, il a marqué la ville. Il a marqué la ville. Et 150 ans après sa mort, la ville est toujours marquée de son empreinte. Il y a des lycées Georges Müller, il y a des avenues Georges Müller, il y a des mémorials, il y a une fondation Georges Müller. Il y a quelque chose de particulier au niveau des églises là-bas. L'association que je suis allé voir œuvre dans un quartier vraiment assez terrible de Bristol. Alors ils ont une épicerie sociale, ils ont une friperie, ils ont un grand magasin de meubles d'occasion, hein, ils font un style un peu Emmaüs, ils ont aussi une banque de microcrédit, ils aident des gens à monter un petit business, hein, et ils accompagnent toutes ces personnes, et ils ont aussi un lieu d'accueil. Alors on va les voir d'abord dans ce quartier vraiment terrible, et puis ils nous disent, ben, venez manger avec nous ce soir, on vous reçoit à la maison. Et il nous donne une adresse. On va dans le quartier, et là, on se retrouve dans un quartier, mais alors chic, chic de chez chic, avec des Bentley, des Jaguar, des Land Rover un peu de partout. Je me dis, mais non, non, on a dû se tromper d'adresse. Et en fait, là où ils sont, c'est la maison de George Müller. Voilà, c'est la maison qu'il a occupée. Et ils sont à... Ils vivent une vingtaine, là, dans cette... dans cette maison, il y a un couple pastoral qui est entouré d'un tas de jeunes, de gars de passage, ou de gars qui sont là et qui vont rester plus longtemps. Et ils vivent cette communauté là, hein, au milieu de ce quartier. Ils ont le soutien des églises du coin, ils ont le soutien de tout le quartier aussi. Et c'est grâce à cet esprit qui est sur la ville qu'ils arrivent à faire tout ça. Et cet esprit, je crois que c'est ça à voir avec cet esprit du jubilé. Et moi, je crois que l'Église devrait être de tous les combats pour la liberté. L'Église devrait être de tous les combats. Je crois que l'Église est dans son rôle quand elle lutte pour la liberté, quand elle lutte pour l'affranchissement. L'Église est dans son rôle quand elle témoigne de ce qui l'anime, de l'esprit qui l'anime. Quand elle lutte contre l'apartheid, le rôle qu'a eu l'Église, hein, en Afrique du Sud, c'est quelque chose qui est important. Quand elle lutte pour les droits civiques, Martin Luther King, tout le monde connaît Martin Luther King. Les païens, vous leur parlez de Martin Luther King, ils connaissent. Parce que ça marque, parce que ça laisse une empreinte. J'ai toujours étonné aussi par les Français. Un peuple anticlérical, au possible. Les églises sont à la ramasse. Par contre, pendant des années, la personnalité préférée des Français, ça a été l'abbé Pierre. Expliquez-moi la contradiction. Je ne comprends pas. Et pourtant, c'est la réalité. Parce que cet homme a marqué ce pays. Par son engagement, par l'action qu'il a menée. Cet homme a marqué ce pays. Je crois que l'Église est dans son rôle quand elle se bat pour la liberté, quand elle se bat pour l'affranchissement, quand elle agit dans ce sens. On n'est pas tous des super évangélistes. On n'a pas tous la parole facile. Moi, j'étais admiratif d'un gars qui était dans une des églises où je suis passé et il pouvait partir de n'importe quel sujet de conversation. Il arrivait, tac, 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 la croix, Jésus, repens-toi, donne ta vie à Christ. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas faire non plus. Lui, c'était son tout naturel. J'étais touché un jour par deux petites mamies. Dans une église ici, elles avaient une banque alimentaire, enfin, elles tenaient une banque alimentaire dans l'église et je les ai appelées pour voir comment ça se passait, voir comment si elles avaient des besoins, etc., etc. J'ai été très touché par leur attitude, leur témoignage, la compassion qu'elles avaient envers les jeunes. Elles disaient, on a des étudiants, et on cherche à les aider, ces étudiants, parce que ben, ils n'ont pas beaucoup. Et même quand ils ont des parents qui les aident, c'est un sacrifice terrible pour les parents. C'était pas des évangélistes. Mais ce qu'elles ont fait, ce qu'elles faisaient à l'église, c'était important. C'était important. Ce n'est pas trahir le message de l'évangile que de s'occuper de ses semblables. C'est aller exactement où l'esprit de cette année de grâce, ce jubilé, veut nous amener. On n'oublie pas la prière pour les malades. On n'oublie pas la proclamation de l'évangile. On n'oublie pas les dons spirituels, la délivrance des possédés, la croix et le pardon des péchés, la nouvelle vie en Christ. On n'oublie pas ces choses. Mais on témoigne aussi par nos œuvres. On témoigne aussi par notre engagement. L'Église ne se trompe pas quand elle s'occupe des migrants à Calais, quand nous jouons de solidarité avec Haïti ou d'autres pays comme cela. L'Église ne se trompe pas quand elle cherche à aider l'Église persécutée dans le monde, ceux qui sont emprisonnés. L'Église ne se trompe pas lorsqu'elle apporte l'éducation et la santé en divers lieux. J'ai été frappé toujours par le travail de nos frères au Cambodge, au Laos, qui non seulement ont apporté l'évangile, mais ont changé la vie de bien des villages par le programme qu'ils avaient, ESC, éducation, santé, communautaire. L'évangile a pénétré dans ces villages parce qu'il y avait autre chose à côté aussi. Et aujourd'hui, notre frère Bruno Feuillera essaye de développer un travail dans ce sens ici en France. Voilà, à Cahors, nous faisons partie de ce programme. La Ciotat, d'autres villes encore ont décidé de rentrer dans ce programme. Et je pense que c'est important. La vocation de l'Église, c'est de briser les chaînes de tous les esclavages. De tous les esclavages. Je vous parlais de la situation de notre pays, la France, face à la santé mentale. Moi, je crois que l'Église a quelque chose à faire. Vous regardez les séries américaines ? Vous n'avez pas fait attention que très souvent, quand il y a une rencontre des alcooliques ou des groupes de soutien, ça se passe très souvent dans une église. Très souvent, ça se passe dans une église. Où on est ? L'église de Lyon a décidé de se prendre à bras le corps le problème du suicide. Ils ont lancé un truc. Au début, ils se sont dit, bon, allez, c'est pour le quartier, quoi. Ils ont mis en place un numéro de téléphone, un numéro d'appel, une permanence. Et ils ont commencé ce travail. Et puis, ça a attiré l'œil de la mairie, parce que vous savez que le problème du suicide en France, c'est quelque chose de très sérieux. C'est beaucoup plus de morts que les accidents de la route. C'est 9000 personnes par an qui mettent fin à leur jour, et c'est 200 000 tentatives de suicide reconnues, estimées. Donc cette église a commencé ce travail et puis ça a atterri sur le bureau du maire. Et le maire a dit, ok, on va les aider. Il leur a fait une campagne sur tous les bus de Lyon. Et ils ont assumé ce travail. Maintenant, c'est quelque chose qui tourne sur la ville de Lyon. Mais au-delà de la ville de Lyon, c'est maintenant une œuvre nationale. C'est une équipe qui travaille là-dessus à plein temps et qui s'occupe de ce problème-là, qui a pris à bras le corps ce problème-là. Et il y a besoin de projets comme ça. Je suis allé voir un lieu d'accueil aussi. Alors, ce n'est pas dans les milieux ADD, mais c'est chrétien. Ça se trouve dans l'arrière-pays de Montpellier. Et en fait, c'est un couple de hippies qui s'est converti en Afghanistan. Ils ont rencontré le Seigneur en partant en Inde. Ils sont arrivés en Afghanistan, Jésus les attendait. Ils ont donné leur cœur au Seigneur tous les deux, ils sont rentrés en France. Ils ont ouvert la maison de Dieu, ça s'appelle. Enfin, tout un tas de circonstances ont fait qu'ils ont récupéré un lieu qui était plus en service, une ancienne maison d'enfants, qui, parce qu'elle était plus aux normes, c'était plus en service, donc 1000 mètres carrés de bâtiment, 11 hectares de terrain, et ils accueillent tout le monde sans exception en permanence. Vous débarquez là-bas, c'est pas la peine d'appeler, c'est pas le 115, c'est la maison de Dieu. Ils sont en permanence entre 70 et 150. Tous les matins, il y a réunion. Tous les matins, l'évangile est proclamé. Le maire leur a fait X procès. Il veut les voir fermer. Il n'en peut plus de tous ces gens qui sont là. Des alcooliques, des drogués, des toxicomanes, des migrants sans papier, etc., etc. Ah oui, ça fait un peu tâche dans le village. Mais la préfecture les soutient mordicus. Parce qu'ils ont besoin d'eux. Les policiers ramassent un gars dans la rue, ivre mort. Savent pas quoi en faire à la maison de Dieu. Voilà. C'est ça l'esprit de jubilé. Et honnêtement, je ne sais pas combien de gens se sont convertis dans ce lieu. Parce que ce n'est pas vraiment une église, c'est des gens qui ont fait ça avec leur cœur, qui n'ont pas calculé quoi que ce soit. Voilà, ils ont donné leur cœur à Jésus, ils l'ont fait. Mais je ne sais pas combien de centaines, voire de milliers de personnes ont donné leur cœur au Seigneur dans ce lieu. Dans ce lieu. Il y a... Lorsque j'étais à Béziers, on a ouvert aussi un café associatif. Et je fais le tour, là, je me présente aux commerçants là, du coin. Et il y a un jeune Arménien qui est là. Juste en face, là, il a un garage de voiture et il me reçoit. Et puis, il m'écoute, tout ça, ok, il ne me dit rien. La semaine d'après, je le vois arriver avec deux gros sacs de courses. Il dit, tiens, c'est pour toi. Et il me dit, tu sais, quand je suis arrivé en France, il avait 18 ans. C'est dans la maison de Dieu qu'on m'a accueilli. C'est là que j'ai appris le français. C'est là que j'ai appris à connaître le Seigneur. Alors, voilà. Et toutes les semaines, il m'a porté deux gros sacs de courses parce qu'il me disait, voilà, c'est quelque chose que je dois. Quelque chose, c'est comme pour payer ma dette, en quelque sorte. Hein, mais il le fait de bon cœur. Je vais à côté, il y a Aïcha, c'est une Algérienne. Et je vais la voir. Je me présente. Ah oui, à tes pasteurs. Elle me dit, mais tu sais que le Seigneur Jésus m'a guéri? Là, je ne comprends pas. Attends, t'es musulmane ou tu es... Oui, je suis musulmane, mais j'ai 14 ans de dépression derrière moi. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a amené à la réunion. Je suis allé à une réunion et le Seigneur Jésus m'a guéri. Il m'a sorti de 14 ans de dépression. Elle n'a pas donné son cœur au Seigneur. Mais sa fille, oui. Sa fille, oui. Voilà. Pour vous dire, quand on est là, quand on est dans cet appel, quand on est dans cet esprit de jubilé, il y a des tas de choses qui se passent à côté. Il y a des tas de choses qui se passent parce que l'Esprit de Christ est là. Et il veille sur nous. Et moi, je voudrais vous encourager, vous tous, jeunes et vieux, à penser à ça. Voilà, peut-être que votre appel, c'est pas d'être super évangéliste, de prier pour les malades dans la rue, mais peut-être que votre appel, c'est simplement d'exercer la miséricorde. Comme ces deux petites mamies dans cette ville, comme ce couple qui ont fait ça, comme... Un tas d'autres gens, alors il y a des œuvres qui sont grandes, mais il y a des choses qui sont très simples, et qui pourtant portent des fruits admirables. Parce que ce n'est pas le succès de l'œuvre qui compte, c'est le cœur avec lequel les choses sont faites. Et notre pays a besoin. Notre pays a besoin. Ce que j'ai réalisé à Béziers en ouvrant ce café associatif, c'est que, en fait, les CCAS, les mairies, les préfectures, ils ne savent plus comment faire. Ils ne savent plus comment faire. Et ils cherchent des gens qui ont ça à cœur. Ils cherchent des gens parce qu'ils s'aperçoivent que souvent, eux, ils mettent des milliers d'euros, des fois, dans des projets pour essayer de faire des trucs qui ne marchent pas. Et que des fois, des petites associations. Il y a un frère qui est dans le nord de la France, il me disait, voilà, nous, on a mis en place des cours pour les migrants. Et ils l'ont fait simplement parce que, voilà, dans l'église, ils ont quelques migrants. Alors, ils se sont occupés d'eux, des frères et sœurs. Et puis, ben, ces frères et sœurs migrants, ils ont parlé à d'autres, et il y en a d'autres qui sont venus, et ils se sont retrouvés avec une classe de 70 personnes. Et un jour, ils voient un délégué du maire qui arrive, c'est une ville quand même un peu importante, et le gars, il dit, on a entendu parler de vous, et on est troublés parce que nous, on a mis des milliers d'euros là pour mettre en place un truc, et puis on n'a personne. Disons, voilà, quelques personnes. Mais chez vous, vous faites 10 fois plus que nous. Vous faites pas de bruit. Et vous êtes là. Et ils ont dit, bon, écoutez, on va vous financer. On va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Des salles, des... Pas de soucis. Et on veut travailler avec vous. Je crois que la seule différence, c'est peut-être au niveau de l'accueil. C'est peut-être cet esprit que chacun a. Un dernier petit témoignage, après je vous laisse. Au café associatif à Béziers, tous les lundis soirs, on faisait un repas. Et puis, on faisait manger, et puis on distribuait. Et un jour, je suis assis à la table avec trois gars, là, et on discute. Et puis, à un moment, il y en a un qui m'arrête, et il me dit, tu sais, il y a quelque chose de particulier chez vous. Je dis, bon, ah bon? Dis-moi, eh bien, vous êtes les seuls qui mangez avec nous. Vous êtes la seule association où les animateurs mangent avec les personnes. Et ça m'a arrêté parce que c'était pas un truc calculé, c'était pas une stratégie, c'était simplement, ça nous paraissait normal, ça nous paraissait logique. Voilà, on essayait quand même faire de la bonne nourriture et... Je ne voulais pas les laisser tout manger, quoi. Mais ben pour ces gens, ça faisait la différence. Pour ces gens, ça faisait vraiment la différence. Et peut-être que vous ne le réalisez pas, ça. Mais vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous avez un esprit de compassion, d'amour, de force, de sagesse que les autres n'ont pas. Et peut-être sans vous en rendre compte, il y a des choses qui peuvent passer simplement parce que vous incarnez quelque chose. Et ce que je souhaite, c'est qu'on incarne la parole de Dieu. C'est que quelque part, notre nom de chrétien ne soit pas, comment dire, simplement une habitude de fréquenter l'église, mais que ce soit vraiment un cœur qui reflète la gloire du Seigneur. Parce que ça se voit sans parole. Ça se ressent sans parole. Et c'est pour ça que je pense que l'Église a un rôle à jouer dans notre pays aujourd'hui, au XXe siècle, et peut-être plus que ce que les chrétiens eux-mêmes le pensent, ou que ce que les pasteurs eux-mêmes le pensent. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Père pour ces moments. Merci pour cette Église qui est là, parce que ce sont tes enfants, parce que c'est toi qui les as appelés, parce que c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui as réuni ces frères et sœurs. Père, et Nous te prions pour que notre pays soit béni et visité de ton esprit, Père. Mais je veux aussi prier, Seigneur, pour que tu fasses lever des ouvriers dans ta moisson. Que ce soit des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, mais Père aussi, des gens qui exercent la miséricorde au quotidien, des gens qui prennent soin des autres, des gens qui s'engagent pour les personnes âgées, d'autres pour les problèmes d'addiction, les problèmes de santé mentale, d'autres pour simplement soulager un peu la pauvreté, la misère sociale de notre pays. Seigneur, tu es en tes mains. Tu es en tes mains sur ton Église. Et tu suscites des projets, Père. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.